de l'entendre, les textes bibliques qui sont livrés à notre commune méditation nous invitent ce matin à retenir deux éléments essentiels. Tout d'abord, en ce début de ce qu'on appelle communément l'année ordinaire, avec l'évangile de Matthieu, nous avons les débuts de la vie publique de Jésus, le début de son ministère. Et puis nous avons aussi l'évocation de la vocation des premiers apôtres. Tout d'abord, la mission de Jésus correspond à la prophétie d'Isaïe. Et cette prophétie d'Isaïe, nous l'avons attendue à deux reprises. Tout d'abord, dans la première lecture, qui n'est pas sans nous rappeler, bien entendu, ce que nous avons entendu lors de la nuit de Noël. Et puis, nous l'avons également entendu dans la péricope évangélique. Et qu'est-il dit dans la prophétie d'Isaïe ? C'est que la lumière des nations allait surgir dans une région défavorisée de Terre Sainte. La seconde lecture, elle, nous parle d'une manière plus spécifique des apôtres, nous faisant comprendre qu'ils sont seulement des instruments de la grâce, des instruments de Jésus, et qu'ils ne peuvent prétendre pour eux-mêmes absolument à aucun honneur. Alors reprenons l'Évangile et reprenons le début de la prédication de Jésus. Qu'est-ce que nous entendons ? Convertissez-vous, car le royaume des cieux est tout proche. Ce qui veut dire que l'invitation est une invitation à la conversion et elle s'appuie sur une formidable bonne nouvelle : le royaume des cieux est proche. Alors nous le savons, dans la grande tradition hébraïque, il s'agissait d'attendre le royaume des cieux comme la manifestation hic et nunc, ici et maintenant sur la terre, du règne de Dieu. Un règne qui devait changer le visage du monde en y établissant en particulier la paix, la justice, l'amour, la joie. Eh bien, nous entendons ce matin, permettez-moi l'expression, comme une petite musique différente. C'est l'invitation à faire en sorte que le royaume de Dieu puisse être présent dans notre cœur. Et pour cela, il y a un préalable qui est requis, notre conversion. Jésus montre ainsi qu'il ne considère pas le royaume des cieux comme un fait politique qui requerrait aucune conversion. Mais à l'inverse, le royaume de Dieu ne peut s'établir que dans des cœurs qui acceptent de se convertir. Nous le savons, frères et sœurs, dans toute l'histoire de l'humanité, l'une des rengaines les plus connues des politiques est « changeons la vie ». Or, nous, les chrétiens, nous disons « changeons d'abord notre vie avec la grâce de Dieu ». En nous souvenant du mot de M. de Paul, « le monde, il est comme on le fait ». Et donc, pour pouvoir établir le règne de Dieu, faut-il encore que Dieu règne dans notre cœur, dans notre esprit, qu'il soit présent comme étant la lumière de notre vie. La seconde lecture, elle, nous permet de souligner un aspect extrêmement important de la vie à la suite de Jésus. Et ce qui nous est montré, c'est que les apôtres ne sont que des instruments. Ce qui signifie que l'action est toujours une action de Jésus et que les apôtres ne peuvent ni ne doivent prétendre être importants. Nous avons entendu saint Paul s'adressant à l'une des premières communautés chrétiennes. Et il rapporte ce qu'il a entendu et qui lui fait de la peine parce que ça touche à quelque chose d'essentiel de l'ecclésiologie, c'est-à-dire de la vie en Église. Et donc, de la respiration spirituelle. Qu'est-ce qui se passe à Corinthe ? Eh bien, il y a des discordes, il y a des divisions. Et pour quelle raison ? C'est effarant, il y a le culte de la personnalité. Et Paul explique, certains disent, moi j'appartiens à Paul, d'autres j'appartiens à Apollos, d'autres j'appartiens à Pierre. Et devant ce constat, c'est peu de dire que Paul réagit avec autant de force que de pédagogie. Il affirme tout d'abord qu'il n'est pas juste que les chrétiens s'attachent à un apôtre plutôt qu'à un autre, parce que cela suscite des désordres. Et puis, avec pédagogie, il pose les questions essentielles. Est-ce donc Paul qui a été crucifié pour vous? Est-ce au nom de Paul que vous avez été baptisé? Et nous entendons évidemment surgir les réponses, non. De fait, seul le Christ a été crucifié. Et le baptême est administré au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un prêtre, collaborateur des évêques, les évêques étant successeurs des apôtres, lorsqu'il baptise, c'est non en son nom propre, mais au nom de la Trinité Sainte. Cela signifie, frères et sœurs, en cette semaine de prière pour l'unité des chrétiens, que nous avons toujours, les uns et les autres, prêtres, religieux, religieuses, laïcs, nous avons toujours à veiller à la cohésion du corps ecclésial et à n'avoir jamais aucune attitude qui puisse blesser le corps ecclésial. Et par conséquent, il est tout à fait essentiel de rappeler, comme le fait saint Paul, que les apôtres ne sont que les instruments de la grâce de Dieu. Et sinon, ils risqueraient non plus d'être des serviteurs du bien commun, mais des manipulateurs. À ce sujet, nous savons toute l'importance aujourd'hui des réseaux sociaux pour la nouvelle évangélisation. C'est un outil extraordinaire. Et bien là aussi, il faut pointer l'éventuel danger d'une sorte de forme d'hypertrophie du moi. Nous autres prêtres, nous ne sommes pas là pour tweeter nos humeurs, mais pour transférer, transmettre la bonne nouvelle. Cette bonne nouvelle, c'est le Christ, lumière des nations, lumière des cœurs, lumière des consciences. Et de même, nous l'avons entendu, Jésus appelle deux frères, puis deux autres frères. Ensuite, il enverra ses disciples deux par deux, ce qui veut dire que tout acte missionnaire est un acte d'église et non pas une sorte d'épopée solitaire. Alors, frères et sœurs, ensemble, prions. Prions pour qu'il y ait des prêtres, pour qu'il y ait des jeunes qui se lèvent et qui répondent généreusement afin d'être des instruments de la grâce au service de nos communautés. Prions pour que, ensemble, nous soyons toujours solidaires pour faire en sorte que ne soit jamais abîmé par notre faute le corps ecclésial. Et enfin, prions pour que, ensemble, nous soyons les témoins de ce royaume de Dieu qui vient, qui est là, à nous de l'accueillir.